Bonjour et bienvenue. Alors, déjà quelques petites infos préliminaires sur les tables du fond pour ceux qui ne l'ont pas encore eu. Donc, il y a le catalogue annuel bleu du programme, enfin, toutes les activités de l'UTB. Donc, si vous ne l'avez pas pris en entrant, eh bien, vous le prendrez en sortant. Hein. Il y a également un petit flyer là qui évoque une conférence qui va avoir lieu tout début octobre. C'est le 7, hein, le 7 octobre. Donc Adriano Farano, qui est un boulanger parisien, on va dire à la mode, qui a accepté de venir nous parler du pain, et Dieu sait s'il y a à dire. Je ne sais pas s'il amènera du pain ou s'il l'aura fait le matin. On verra bien, voilà. Et donc, on a choisi un petit peu ce sujet qui est un petit peu inhabituel dans notre programmation pour essayer d'attirer des nouveaux adhérents qui ne nous connaissent pas. Parce qu'on a une idée, c'est quelquefois un petit peu abstraite de ce que peut être l'UTB. Donc, le meilleur moyen de se rendre compte de la façon dont ça se passe, ben, c'est de venir et donc de profiter de l'opportunité d'une conférence qui peut attirer un public qui va un petit peu au-delà de nos thèmes habituels, si vous voulez. Donc, oui, vas-y. Attends, tu viens là pour parler dans le micro, on ne t'entend pas.
Vous pouvez tous inviter quelqu'un à cette conférence. Le deuxième, parce que c'est un sujet totalement transversal et qui intéressera tout le monde, parce que le pain, c'est ce qui nous fait le plus de mal. Enfin, vous verrez, au plan santé. Alors, après, vous pourrez toujours critiquer ses dires, mais il travaille avec des gens, des analyses laboratoires et tout, et donc il est très scientifique. Hein, après, bon, vous verrez. Mais je pense que vous pouvez en parler à beaucoup de gens, prendre le flyer, le photographier et le emailer. OK.
Bien, alors, déjà, encore une question préliminaire. Y a-t-il dans la salle des personnes qui se sont inscrites pour la première fois à l'UTB cette année? Voilà, bravo et merci. Voilà. Non, mais c'est pour voir un petit peu, parce que la liturgie de la messe est toujours un petit peu la même. Donc, quand on découvre une nouvelle manifestation, ben, on va découvrir comment ça se passe. Eh bien, je fais Monsieur Loyal, hein, et donc j'introduis tous les animateurs des différentes activités, les uns après les autres, il faut un petit laïus, et on peut poser des questions à l'intervenant. À défaut, quelquefois il y a des absents, donc je bouche le trou, et je fais la petite présentation à la place de la personne qui n'a pas pu se déplacer. Voilà. On y va. Alors, on a appelé les ateliers, les groupes, les activités complémentaires. C'est bien activités complémentaires. Je rappelle que notre activité principale consiste à donner des conférences tous les jours de l'année scolaire, du début octobre jusqu'à la fin avril, sur des sujets extrêmement variés. Mais l'histoire a fait que on a eu des opportunités, soit grâce à des intervenants extérieurs, soit parce qu'on l'a décidé de nous-mêmes, soit parce qu'il y avait une demande de certains adhérents de créer différents groupes dont on va les passer en revue. Alors bon, si les gens viennent, c'est que ça leur plaît, bien évidemment, mais surtout, c'est l'occasion d'avoir un échange plus approfondi avec d'autres membres de l'UTB. L'expérience montre que tous les groupes s'auto-organisent au cours du temps, au cours des années, et font des petits pots de fin d'année, font éventuellement des sorties amicales et des choses comme ça, si vous voulez. Donc, ça, c'est plus l'UTB en tant qu'organisme qui manipule tout ça ou qui organise tout ça, c'est une auto-organisation de tous ces groupes à leur initiative. Et donc, ça donne l'occasion de rencontrer des gens. Et évidemment, la formule de la conférence, c'est très bien, puisque c'est notre formule de base, mais elle n'est pas propice, bien évidemment, à des contacts entre des personnes du public. On vient écouter et ensuite on s'en va, sauf si on connaît déjà des personnes dans le public. Alors, voilà une petite liste des activités. Donc, on va les passer en revue à la queue leu leu. Une petite info, là. Je quitte la présentation une seconde, là. Si ça marche. Voilà. Et voilà. Nous avons un site internet pour ceux qui nous connaissent depuis longtemps. Donc, et dans le site internet, il y a un menu qui s'appelle Groupes et ateliers. Et ici, vous avez la liste générale et ensuite la liste de toutes les activités, les informations qui sont liées à chacun des ateliers. Si on a à en faire passer, eh bien, sont dans le menu qui est à gauche ici. Donc, n'hésitez pas. Alors, en principe, dans beaucoup d'ateliers, l'animateur fait des convocations ou des invitations par mail avec la liste des inscrits. Donc, pour que ça fonctionne, il faut être inscrit, même si l'atelier est gratuit, on en parlera plus avant, de telle façon qu'on puisse créer ces listes de diffusion et donc donner des informations sur la prochaine réunion, c'est le temps, ou alors il y a un décalage de la réunion pour telle ou telle raison, etc. etc. Ça n'empêche pas que ces informations soient centralisées sur le site et qu'on puisse s'y référer si on a un peu oublié ou on a perdu le mail, etc. d'avoir ce point d'accroche pour vérifier les informations. Je vais prendre par exemple au hasard économie et géopolitique. 2022-2023, eh bien voilà la liste des sujets qui vont être traités, les personnes qui vont s'en occuper et les dates des premières réunions, puisque très souvent on définit le calendrier un petit peu à l'avancement en fonction des disponibilités des participants. Donc le fait que ce soit marqué sur le site, ça permet très rapidement, si on a perdu les informations, de ne pas téléphoner au bureau en disant « Ah ben oui, je ne sais plus où on en est, etc. » Donc on essaye de mettre ce site à jour au fur et à mesure des événements. Je reviens à la présentation. Voilà. Et voilà. Alors, ça continue. Voilà la liste. Hein. Je rentre pas dans le détail. On va directement aller sur chacune des activités. On a fait quelques petites photos, voilà un petit peu comment ça se passe. Bon, l'essentiel des ateliers se déroule dans nos locaux de notre secrétariat, c'est-à-dire 30 rue Saint-Georges. Il y en a quelques-uns qui se passent à l'espace Jean Zay, mais pour l'essentiel, tout se passe chez nous. Et voilà quelques images de ces ateliers. Alors, on a deux salles, une salle assez grande où il n'y a pas de matériel de vidéoprojection, une salle un petit peu plus petite, mais enfin qui tient quand même une vingtaine de personnes, dans laquelle on peut faire des vidéoprojections comme ça. Alors, on attaque pour la première. Donc, Monsieur Stroel, il est là, j'ai vu arriver. Monsieur Philippe Stroel, il va se présenter. Le plus simple, donc, vous prenez le micro et vous faites votre présentation. Voilà. Dites qui vous êtes et ce que vous faites. Voilà.
Je vais essayer de faire ça. Bonjour. Donc, Philippe Stroel. Je suis caviste à Givry. Donc, voilà. Mon travail quotidien consiste essentiellement à sélectionner des vins, en goûter un certain nombre, en boire un peu moins. Et depuis déjà plusieurs années, j'organise pour l'UTB des ateliers dégustation. Voilà, chaque fois sur des thèmes différents chaque année. Donc en général, il y a 5 ateliers, un atelier par mois à partir du mois de novembre. Ça a lieu le jeudi matin, à Givry, cette fois-ci dans nos locaux à Givry. On va aborder 5 sujets cette année. L'appellation Alors, ces dégustations consistent simplement à déguster des vins, donc déjà parler de la dégustation des vins en général, et puis surtout il y a des gens là je vois qui des fidèles des dégustations, et donc également parler du sujet. Hein, par exemple, le premier sujet va être l'appellation Mercurey. L'idée, c'est de faire un tour d'horizon de cette appellation. Voilà, voir un peu comment l'appellation est organisée, quel type de vin on y trouve, quel type de terroir. Alors l'idée ici, c'est d'avoir des vins de style, de propriétaires différents. Voilà, d'avoir une petite image. Alors en 5 vins, vous ne serez pas imbattable sur l'appellation Mercurey, mais bon, vous en saurez peut-être déjà un petit peu plus. En tout cas, les gens, quand on fait des choses, des thèmes locaux, sont des fois surpris parce que on pense toujours, voilà, c'est à côté de chez nous, des Mercurey, j'en bois depuis 40 ans, donc finalement, je vois ce que c'est, et finalement, on apprend toujours quelque chose. Voilà, on découvre toujours une autre facette parce qu'on a souvent l'occasion de boire quelques vins, mais pas forcément d'avoir une idée un petit peu plus globale. Donc ça, c'est un peu l'idée de faire une journée, enfin 2 heures, sur une appellation bien définie. Alors, un deuxième sujet va être des vins trop peu connus. Donc ça, c'est un peu... Je me suis rendu compte que je me suis mis un challenge parce que je sais pas du tout ce que je vais y mettre. Je les connais pas encore, finalement. Mais au départ, j'avais mis la barre un peu plus haut. J'avais mis des vins pas connus. Et puis je me suis dit, bah finalement, il y en a bien un dans le lot qui va connaître un vin, il va me dire, c'est pas du tout ça. Donc j'ai pris peu de risques. Voilà. C'est, ça s'appelle le low risk management en anglais, donc je suis trop peu connu. Donc voilà, ça me laisse un petit peu plus de flexibilité. Donc on verra. Ce sont des vins voilà, qui ont souvent peut-être des piètres réputations, des petites appellations qu'on connaît très peu, et puis finalement des vins qui présentent un intérêt, voilà, qui peuvent être très intéressants. Alors, déambulation vinique d'Orange à Vaison-la-Romaine, évidemment, ça va toujours avoir lieu à Givry. C'est pas à pied, je sais pas où vous emmener à Orange, pour faire cette balade. C'est simplement de faire une dégustation autour des appellations qu'on va trouver un peu sur cette route. Vous en connaissez certainement, hein, les Vaqueras, les Gigondas, les Ségurets, les Sablés, etc. Donc voilà, c'est de se promener un petit peu, Rouex peut-être, c'est de se promener un peu dans cette région qui produit des vins qui sont intéressants. Les vins de Bordeaux, donc ça c'est une, on va dire, une session, un atelier qui est consacré de façon générale aux vins de Bordeaux. C'est une connaissance générale de ce vignoble, qui est quand même le premier vignoble producteur de vins d'appellation d'origine en France. Et donc on va goûter quelques vins pour avoir une idée, hein, certainement des vins de la rive droite, de la rive gauche, hein, donc du Médoc, de Saint-Émilion, de la région des Graves, etc. Et puis c'est l'occasion surtout de parler un petit peu de ce vignoble, et puis comme ça peut-être ça permettra aux gens d'avoir une vue un petit peu plus générale, voilà, de ces vins et de cette région viticole souvent voilà qu'on pratique peu dans nos régions, hein. On est très attaché à notre Bourgogne, alors le Bordelais, on sent bien que quelquefois c'est pas la motivation première quand on veut goûter du vin. C'est dommage, hein, parce que c'est intéressant. Et puis finalement, ce qu'on a pris l'habitude de faire au cours des dernières années, c'est une dégustation inspirée par les participants, c'est-à-dire ils ont 4 mois pour cogiter. Enfin, peut-être 3, on va dire 3, parce qu'il faut quand même laisser le temps un peu d'y songer également. Et donc, de dire finalement quel est le sujet qui vous intéresserait. D'ailleurs, il y a un certain nombre de ces sujets qui sont issus de cette réflexion. À l'appellation Mercurey, les gens, ont dit, tiens, pourquoi pas faire quelque chose de plus local, parce qu'on a tendance à aller goûter d'autres vins, parce qu'on se dit... Localement, on connaît déjà très bien les choses, et donc ils ont dit mais pourquoi pas faire finalement quelque chose de local, d'un petit peu plus fouillé que ce qu'on a l'habitude de faire. Et donc voilà, c'est une dégustation qui va être inspirée. Alors, je ne sais pas s'ils vont être inspirés cette année ou pas. Déjà, il faut déjà voir s'il y a suffisamment de personnes pour organiser ces ateliers. Voilà. Mais s'il y a suffisamment de personnes, je suis sûr qu'on trouvera un sujet qui les intéressera tous. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Strohel.
Merci à vous.
Vous posez le micro, là, pour le suivant. la suivante. Donc, je rappelle pour tous les ateliers, si vous n'avez pas eu l'occasion de passer, on ne va pas vous retenir, hein, à moins que je suppose que vous avez des choses plus intéressantes à faire. Donc, merci d'être venu, hein, pour faire votre présentation. Donc, il y a des feuilles d'inscription, c'est Liliane Doutet qui est en charge de ça. Ils sont sur la table du fond, donc on peut les remplir en séance et elle ramasse les copies et éventuellement les chèques s'il y a besoin d'un chèque. Alors, évidemment, là, c'est un atelier payant puisque à minima, il faut bien payer les vins que l'on déguste plus la prestation de M. Strouel. Voilà. Donc, on passe. Alors, juste un petit complément, on aura une conférence, comme tout, pratiquement tous les ans, autour du vin, du vignoble. Et donc, traditionnellement, c'est monsieur, le nom ne me vient pas en tête, enfin, c'est un chercheur de l'INRA, monsieur Bourque, un chercheur de l'INRA de Dijon, qui va nous parler de l'effet du réchauffement climatique, évidemment, sur l'évolution de la viticulture et de la production de vin. Hein, ça s'impose. Voilà. Donc j'appelle Catherine Weissmann, ici présente, merci. Et donc elle va nous présenter. Alors je vais faire une petite intro. Hein. Donc Catherine Weissmann, ici présente, ancienne professeure de lettres.
Très ancienne.
Non.
Très, très ancienne.
Et qui nous a proposé ça il y a 2 ans maintenant. Et ça a tellement plu aux participants qu'on a contingenté la participation. C'est-à-dire aujourd'hui, on vous le présente, c'est pour le fun, mais il n'y a plus de place. Peu frustrant. Mais elle va vous expliquer.
Oui, en même temps, il y a quelquefois des défections en cours de route, parce que il y a l'enthousiasme de départ, puis après, quelquefois, on est déçu. Alors, on ne va pas faire des listes d'attente, mais bon.
Mais pourquoi pas, voilà. Allez, vas-y.
Alors ça, je pense que c'était... le futur de la première phrase, je ne sais pas si se justifie, on ne va pas commencer l'atelier maintenant. Hein. Alors, l'idée, donc, c'est passer une fois par mois, à partir du mois d'octobre, le lundi matin de 10h à midi, 2 heures ensemble. Et quand je dis ensemble, c'est ensemble, c'est-à-dire que c'est un travail dit interactif, pas question d'être dans la situation de la conférence. Alors, les 3 L, on pourrait les mettre dans un autre ordre, latin, langue, littérature, ou dans n'importe quel autre ordre, parce que en fait, l'objectif, c'est de, à partir de supports de texte, soit de texte en latin, soit de texte de la littérature française, quelquefois les deux, et que les non-latinistes ne s'effraient pas, parce que même si on n'a pas fait de latin, on travaille quand... Il y en a une là, elle peut témoigner. Elle n'a pas l'air d'avoir souffert beaucoup. Donc, quoi qu'il arrive, dans ces 2 heures, on aborde une problématique de latin, une problématique de langue française et une problématique de littérature. Et ces problématiques, elles ne sont pas séparées, elles se croisent grâce au texte que je vous mets sous les yeux. Alors, l'atmosphère de travail est plutôt joyeuse, j'y tiens beaucoup. Mais en même temps, ça bouillonne pas mal, ça brasse beaucoup. Moi je suis en tous les cas extrêmement contente de faire partager cette passion que j'ai et du latin que j'ai enseigné quand même pendant un certain nombre d'années à des élèves de 3e et de la grammaire que j'adore d'une façon quasiment pathologique et de la littérature française qui quand même est un bel héritage de tout ça. Donc, je ne peux pas trop vous dire autre chose. Le programme, je ne l'ai pas. Je sais juste que ce qu'on va aborder le 10 octobre, on va travailler, je le dis pour ceux qui seront présents, sur un texte d'Horace et un texte de Ronsard. Voilà, donc ça, on va démarrer en forme. Et puis après, c'est moi qui, au gré un peu de mes envies aussi. La dernière séance étant consacrée, l'année dernière, on a expérimenté ça, chacun est arrivé avec un texte qu'il avait envie de porter, un texte de littérature française. Alors c'est très intéressant et c'est un exercice qui n'est pas facile, ni pour la personne qui propose, ni pour ceux qui reçoivent, parce que comme ce n'est pas le résultat de notre choix, on est quelquefois un peu... on sort de notre zone de confort, comme on dit maintenant, même si l'expression n'est pas très jolie, mais c'est très intéressant. Et c'est surtout très intéressant d'appréhender notre diversité. Alors, ce qui est très bien, c'est qu'on est tous là pour la même raison, c'est-à-dire parce qu'au fond, on adore la langue française. Je crois que de ce côté-là, on est tous d'accord. Mais qu'à partir de là, on ne prête pas les dons forcément aux mêmes personnes. Et ça, c'est passionnant. Moi, ça m'a beaucoup plu. Mais ce n'est pas une séance confortable. En tous les cas, c'était un tout petit peu... C'est pas comme si j'avais proposé moi-même des choses. Alors je recommencerai, parce que je trouve que c'est bien. C'est bien que chacun puisse à un moment dire, ben moi voilà, j'ai apporté ça parce que j'aime ça. Et c'est très... Enfin, moi j'ai beaucoup aimé ce travail-là. Bon, ben voilà, donc première séance le 10 octobre, et je fais partie donc des personnes gratuites. Donc, à la limite, si on n'est pas content, c'est pas grave, quoi. Bien, ben je dis à bientôt aux quelques têtes que je reconnais. J'espère pouvoir en accueillir d'autres. En tous les cas, je me réjouis beaucoup de recommencer ce travail avec les uns et les autres. À bientôt.
Eh bien, merci Catherine. Donc j'enchaîne avec l'atelier suivant. Donc Mathieu Pinette, malheureusement, s'est excusé, n'est pas disponible. Il a dû sortir épuisé des journées du patrimoine, mais il est toujours épuisé puisque vous savez qu'il est extrêmement pris avec toutes ses activités autour du château de Germolles. Mais on la remercie, même s'il n'est pas là en permanence. Il est un fidèle conférencier de l'UTB et surtout un fidèle animateur de l'atelier d'histoire de l'art. Et voilà les trois thèmes. Alors je rappelle, c'est trois modules avec de cinq séances chacune. Hein, et ça se passe à l'espace Jean Zay, salle Niepce, et à 17h. Et donc les conditions matérielles sont excellentes et donc il n'y a pas de problème. Donc les trois thèmes qu'il a proposés. Les grands décors, ça c'est une chose à ma connaissance qu'il n'a jamais faite, les décors de théâtre. On oublie un petit peu que c'est aussi des œuvres d'art, surtout dans la période 17e, 18e, où c'était vraiment considéré comme des œuvres d'art. La tapisserie, on a en histoire de l'art, je ne sais pas s'il l'a déjà fait. Ah oui, c'est encore une affaire du Covid, ça. Voilà. Donc la tapisserie était passée sous le tapis, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc on a eu des conférences sur les techniques de tapisserie également. Il y a toujours des tricotages, des liens entre des thèmes qui ont été développés dans des conférences et des thèmes qui sont développés dans les ateliers. Et puis cinq chefs-d'œuvre de la peinture du 17e. Pourquoi on a choisi le 17e? Parce que le 17e, c'est le grand thème transversal de notre saison de conférences autour de Molière, de Louis XIV, du grand siècle, de la musique, du spectacle, et tutti quanti. Donc effectivement, on ne pouvait pas échapper au 17e. Voilà, donc inscrivez-vous. Donc ça coûte 30€ par cycle, donc 30€ pour 5 séances, parce qu'on a un public qui a une demande qui est assez forte, et donc on peut proposer un tarif qui est tout à fait raisonnable. Atelier d'écriture, à nouveau, Jean-Paul Dayou a eu un imprévu d'hier, là j'ai reçu un mail ce matin, il ne peut pas être avec nous. Donc cet atelier d'écriture, ça consiste à tenter en commun de faire des travaux d'écriture, d'imagination, ou d'histoire, ou d'autobiographie, etc., etc. On avait des intervenants payants qui faisaient ça. Ça se passait pas mal, mais enfin bon, dès qu'il faut un petit peu payer, le public est moins fourni, si vous voulez. Et là, Jean-Paul Daillou faisait partie de cet atelier d'écriture depuis très longtemps, et il a dit bah, si vous voulez, moi je peux essayer de l'animer en bénévolement. Et tous ceux qui y sont, d'après les retours que j'en ai entendus, sont extrêmement satisfaits de son goût de l'imagination. Il a un don particulier pour donner des pistes de travail aux participants. C'est-à-dire, tiens, on pourrait ceci, 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 cela. Et après, il y a des lectures en commun. Et des écrits. Alors, on n'est pas là, on n'est pas en classe pour juger en disant que c'est nul. Voilà. Donc, il y a un commentaire autour de ce qui est des productions qui ont été faites par les uns et les autres. Et d'ailleurs, dans le passé, à deux occasions, il y a eu des publications qu'on a publiées de travaux qui ont été faits, un roman policier, puis un roman un petit peu plus de poésie. Enfin, un recueil de poésie qui s'appelle Miroir, c'était le premier, et l'autre, un immeuble si tranquille, qui est un polar, écrit à plusieurs mains. Voilà. Alors, ça prend gelé, si vous voulez, eh bien, on peut envisager à nouveau de publier quelque chose. Atelier Wikipédia. Alors là, je parle intuitu personnel, hein, c'est moi qui anime ce groupe. Pourquoi a-t-on fait un atelier Wikipédia? Vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, je le rappelle, Wikipédia, c'est une encyclopédie en ligne, mais qui a la particularité d'être faite par tous les internautes, enfin, qui veulent le faire. Et donc, c'est un succès fou en termes de fréquence d'utilisation, c'est au cinquième ou sixième rang sur tous les sites possibles et imaginables dans le monde. Il y a 200 langues différentes et il y a maintenant, je crois, 50 millions de pages dans 200 langues différentes. C'est absolument gigantesque. En volume, si vous voulez, c'est à peu près 10 000 fois l'Encyclopédia Universalis en termes de volume. Hein. Alors, beaucoup l'ont critiqué parce que c'est pas une démarche qui vient d'en haut et qui va vers le bas, comme toutes les encyclopédies. C'est une démarche collaborative qui, globalement, se passe pas si mal que ça. Ça fonctionne dans un mode, disons, de financement très modeste, c'est-à-dire ça ne fonctionne qu'avec des dons. Et ça fait 20 ans que ça existe, tout le monde dit que ça va s'arrêter, et ça continue de plus belle. Alors pourquoi a-t-on fait un atelier Wikipédia? Ben d'abord, on s'en sert beaucoup pour préparer des conférences, faire des activités, c'est une source d'information qui est tout à fait précieuse, mais surtout, tel que ça a été conçu, c'est pas trivial pour faire des modifications, puisque le principe même de Wikipédia, c'est vous lisez un article sur Wikipédia, vous découvrez une erreur, ou ce qui vous semble être une erreur, ou alors il manque quelque chose, ou vous voulez mettre un complément, vous pouvez le faire vous-même. Alors c'est pas très très simple, ça a été un peu fait pour ça, pour que tout le monde n'aille pas patauger là-dedans d'une façon un petit peu indisciplinée. Et surtout, on a une traçabilité totale de tout ce qui est fait au fur et à mesure sur le site de Wikipédia. Alors, on a appris en commun, dans le petit groupe, on est 4 ou 5, de manipuler cet outil. Mais on est allé plus loin, on a fait 2 projets qui ont enfin abouti l'année dernière, et surtout un projet, alors un article qui s'appelle « Histoire industrielle des Schneider », qui a demandé quand même deux ans de travail, à 4 ou 5, et il est publié, cet article est publié sur Wikipédia. C'est un article énorme, hein, qui est plus gros que celui de l'affiche de Napoléon, par exemple. Donc c'est très documenté, donc ça demande du travail, mais et c'est perfectible en permanence. Et l'autre projet, c'est autour des toujours les Chagos. Alors les Chagos, je rappelle, c'est les Schneider de Monceau, hein, c'est les directeurs des mines, des mines de Blanzy, au 19e siècle. Et là, il n'y avait absolument rien sur Wikipédia. Donc là, on a pu faire quelque chose. On a fait quelques autres fiches annexes qui étaient liées à nos activités ou à des conférences. Donc si ça vous intéresse, eh bien, vous êtes les bienvenus. Donc caractéristique principale de cet atelier, c'est qu'il faut travailler. Il faut travailler, c'est-à-dire il faut rechercher et chercher, lire les bouquins, etc., etc. On travaille aussi sur Vivant de Nom, vous savez qu'on s'occupe de Vivant de Nom, etc., etc. Voilà, j'enchaîne. Alors, informatique. Alors, c'est... on a eu différentes formules. Aujourd'hui, bon, beaucoup de gens sont équipés en informatique et l'expérience montre que il y a une certaine frange de personnes qui se sentent mal à l'aise et en particulier de dire ben ils sont un petit peu honteux de pas savoir bien maîtriser les outils au niveau basique. Et donc au lieu de faire des choses qui étaient très formatées comme on a fait il y a quelques années, une dizaine d'années, en disant le traitement de texte, ceci et ceci, cela, on fait un petit pot-pourri de toutes les bases finalement de l'utilisation, les bases surtout méthodologiques. On fait pas de l'informatique en disant vous cliquez sur tel bouton pour faire ceci, vous faire cela. Comment, quelle est un peu la méthode de travail avec l'outil informatique? Et donc les gens viennent avec leur PC personnel et y a un petit canevas d'exposé, puis après ben, on fait des petits exercices ensemble et on fait ça dans la salle vidéo qui permet de montrer à l'écran ce qui se passe sur les machines des différentes personnes de l'atelier. Donc je fais cet atelier, c'est moi qui anime cet atelier avec un collègue qui s'appelle Denis Vigier, qui n'est pas là aujourd'hui. Voilà. Les ateliers de langue. Alors, ça a été l'origine historique des ce qu'on appelle les activités complémentaires avec la littérature et la lecture. Donc vous savez qu'il y a d'autres structures qui font des ateliers de langue. Nous, on a la caractéristique des ateliers de langue de l'UTB, c'est que le nombre de personnes est limité. C'est-à-dire, on vise autour de 6 personnes, de telle façon qu'il y ait une véritable interactivité entre ceux qui sont là, qui écoutent l'animateur, et l'animateur lui-même. Quand vous avez 15 personnes, vous savez tous, si vous avez suivi des cours de langue, ça devient beaucoup plus difficile. Donc on va passer dans l'ordre. Alors, qui est-ce qui démarre? C'est Michael, je crois. Non, c'est Benita. 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 Ladies first. Voilà.
Mesdames, messieurs, bonjour. Je suis là, bien sûr, pour présenter les cours anglais pour débutants. Alors, un fou débutant, c'est quelqu'un qui a déjà suivi des cours d'anglais niveau débutant, quelqu'un qui n'a pas pratiqué la langue depuis très longtemps et qui se sent un petit peu perdu parce qu'il a perdu la connaissance de la langue. Un petit peu, peut-être, voire beaucoup. Alors, pour travailler, moi je travaille avec les thèmes tirés de la vie courante. Par exemple, si on prend le thème voyager, on pourrait imaginer quelqu'un à la gare ou guichet en train de se renseigner ou peut-être en train d'acheter un billet de train. Ce dialogue
pourrait servir pour apprendre le vocabulaire, ou bien sûr les bases, les notions de base pour parler, par exemple la grammaire, comme par exemple comment poser une question en anglais en utilisant les mots interrogatifs. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Les cours, bien sûr, c'est 16 sciences, c'est rue Saint-Georges et le mardi à 10h. Donc, je vous souhaite un très bon après-midi et peut-être, I hope to see you soon.
Merci, Benita. Donc, on enchaîne avec Michael. Alors, Benita, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous avez tout de suite vu qu'elle est très sympathique, mais elle a une autre caractéristique qui n'a rien à voir avec sa sympathie, c'est qu'elle est sud-africaine. Et donc, on bénéficie de l'accent. Oui, oui, ça vient. Michael, voilà.
Bonjour. C'est bon, ça?
Oui, oui, oui.
Donc, tout d'abord, il ne faut pas être découragé par le mot intermédiaire, en vous demandant si vous êtes du niveau intermédiaire. La réalité est que les cours sont appropriés pour toute personne ayant une connaissance basique de la langue ou une compétence plus avancée. En fait, l'éventail des étudiants est assez large. Donc, vous ferez du progrès, soit en apprenant quelque chose de nouveau, soit en raffinant quelque chose que vous comprenez déjà. Alors, je vais vous donner une idée du déroulement d'un cours typique. Comme l'a dit Jules César, au sujet de la France, ou plutôt de la Gaule, chaque cours est divisé en trois parties. La première partie consiste en une vidéo tirée de la télévision britannique. J'ai une parabole qui les capte. Et nous regardons cette vidéo pendant peut-être 10 minutes, puis on parle du sujet de ce programme, et après nous coupons ce morceau en plus petites parties pour discuter les expressions, le vocabulaire, etc. Et puis nous refaisons la même chose. La deuxième partie porte sur un certain aspect de la langue, peut-être la grammaire, la prononciation, le vocabulaire. Et il y a normalement un exercice à faire, à la fin duquel je donne une version correcte comme confirmation de ce que j'aurais expliqué. La troisième partie est un texte tiré d'un journal, d'un magazine, d'un livre. Nous lisons le texte. Nous discutons des idées de l'auteur et aussi nous discutons du vocabulaire, de la grammaire, etc. Donc, les trois parties d'un cours de 1h30. Et je crois que c'est tout.
Merci, Michael. Alors, dites, c'est bien mercredi ou vendredi? Et
ça,
vendredi.
Ça dépend du nombre de groupes.
Voilà.
Donc, je crois que en partie à cause du Covid,
voilà.
on
a perdu
un seul
élèves.
Groupe l'année dernière, mais j'espère que vous viendrez nombreux.
Voilà. Donc, merci, Michael. Donc, et pour couronner le tout, donc, allez, Tonia. Il faut.
Bon. Bonjour, donc je suis Tonia Gantin, j'anime depuis déjà quelques temps l'atelier Conversation Anglaise. Alors l'atelier Conversation Anglaise, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des personnes qui souhaitent maintenir leur niveau d'anglais. Alors bien sûr, on ne demande pas à ce que les personnes parlent comme Shakespeare ou comme la reine d'Angleterre, mais qui s'expriment, qui comprennent à peu près tout. Et cette façon de se réunir donc à Janzay le mercredi à partir de 17h, ça nous permet aussi parfois d'échanger. Alors soit les participants viennent en disant « moi j'ai un sujet, je voudrais discuter de telle chose », il présente son sujet, ça peut être un sujet libre, ça peut être à partir d'un texte, ça peut être à partir d'une émission qu'il a vue, etc., ou d'un problème de société, et on le discute en anglais et tous ensemble. Ou alors on dit ah bah tiens, la semaine prochaine on va aborder tel sujet, et donc chacun dans son coin essaye de penser un petit résumé et on s'explique tous ensemble. Mais ce qui fait surtout le plus de ce petit groupe de conversation anglaise, c'est qu'il y a beaucoup de convivialité. Donc, on déguste souvent des petites choses ou on boit des petites choses et ça permet aussi de parler plus facilement.
C'est pour
après.
Ça que j'ai mis des petites photos pour vous, que vous jugiez de l'importance de l'effort pédagogique voilà. qui est déployé au sein de ce groupe.
Voilà. Voilà, exactement. Merci à tous.
Voilà, merci Tonia. Donc là, c'est gratuit. Hein, Alors, le chinois, Madame Liranglu. Merci. Ah, vous avez un petit... Ah, voilà. Il y a des images. Voilà.
Bonjour à vous tous, 大家好, ça veut dire bonjour à vous tous. En fait, ça fait 5 ans, 6 ans, je suis à UTP pour continuer, en fait, surtout avec Michel, voilà. Et puis, on était 6 l'année dernière, il y a Anna, il y a Henri que j'ai vu juste là, et puis l'année dernière, il y a quelques participants qui sont venus. Je vous remercie beaucoup pour votre confiance et puis et cette année en fait on continue, on est 6. On est de
oui, c'était plus je prends celui-là.
Pardon. C'est UTP. Oui, vous pouvez cliquer sur UTP. UTP, oui. Ouais, s'il vous plaît.
Pardon. C'est ça?
Oui. Et puis c'est la présentation voilà.
C'est celui-là?
Oui. Désolée, j'ai oublié de vous dire.
Voilà.
Et en fait, avec ancien groupe, en fait, on était 7 et on est à peu près, on va dire, 2 ou 3 niveaux différents. Et en fait, ce qui est bien, il y a une bonne ambiance. En fait, on va dire les plus avancés, ils aident. En fait, les débutants, vous faux débutants, et on avance doucement. Et puis moi, je dis, voilà, c'est du chinois, mais parfois, en fait, pour les gens qui s'intéressent, c'est, voilà, il y a des logiques dedans, et parfois c'est simple, parce qu'on a une grammaire, on va dire, entre guillemets, enfin, différent que la grammaire, en fait, française. Et cette année, j'espère que il y aura des nouveaux qui viennent. Soit vous pouvez venir dans notre groupe, ou bien on peut créer un autre nouveau groupe. Et je souhaite aussi faire un groupe qui est vraiment totalement, en fait, pour écriture et calligraphie. Et pour vous dire que j'ai, en fait, avec les expériences faites avec des participants, j'ai vu qu'il y a des participants qui souhaitent... Ah, pardon, je n'ai pas vu Marie-Pou. Et qui voulaient vraiment participer, en fait, faire l'écriture. Et puis, ils ont dit, vraiment, ça me détend, en fait, le moment où j'ai fait l'écriture, c'est un plaisir pour moi. Et après, je me suis dit, peut-être, même pour moi, après apprendre une nouvelle langue pour la prononciation, c'est très difficile. Et parfois, peut-être, on ne peut pas. Et, mais on s'est dit, voilà, pour dire c'est difficile, peut-être, pour vraiment juste pratiquer. C'est pour ça que je souhaite voilà, vous présenter cette année cet atelier, on va dire, voilà, écriture et la calligraphie. Écriture chinoise, voilà. Comme vous pouvez voir, est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez revenir un peu plus haut, au début, s'il vous plaît. Merci. Voilà, je voudrais vous présenter en fait l'écriture chinoise. Comme vous voyez, pour vous, c'est totalement en fait, c'est comme un dessin, ça ne va rien dire. Voilà. Et en fait, on appelle plutôt sinogramme ou bien idéogramme. Et la calligraphie, on va faire en fait avec le pinceau et l'encre de Chine. Et les autres participants, chaque année, on pourrait faire une, deux, trois fois. Ça dépend combien de temps on a, etc. S'il vous plaît, vous pouvez descendre un peu. Voilà, dans cet atelier, je vais vous présenter, par exemple, l'écriture chinoise. C'est composé avec plutôt des traits. Et c'est-à-dire qu'on compose un mot pas avec alphabet, mais avec, enfin, si ça vous intéresse, venez d'abord pour essayer quelques séances pour voir. Voilà. Ça peut être, voilà. On doit, en fait, bien respecter la direction de trait. C'est-à-dire, on va écrire de gauche à droite. Parfois, on va écrire de haut vers le bas. On ne peut pas faire à l'inverse. C'est une question de, en fait, nous aider à mémoriser un mot. Parce que c'est tellement, même pour les Chinois, les enfants, voilà, on apprend tous comme ça. Et après, en fait, ce qui est important aussi, c'est l'ordre de trait. Donc, on ne peut pas écrire un mot, enfin, on ne peut pas, comme vous, vous écrivez par exemple bonjour, vous commencez par B, O, N, etc. Nous, en fait, quand on écrit un mot, par exemple, on commence, en fait, il y a ça, c'est l'ordre aussi, voilà. Si ça vous intéresse, venez pour voir, voilà. Et après, on pourrait regarder aussi des clés. Voilà, ces clés, c'est un peu comme, vraiment, ce sont des clés. Parce que ça nous permet de mémoriser des mots. Et puis quand on voit une clé, on sait que voilà, tel mot, en fait, ça peut être par exemple, enfin c'est très abstrait pour vous montrer, mais on va regarder un peu tout à l'heure. Je vais essayer de faire vite. Excusez-moi, vous pouvez m'aider à descendre un peu. Voilà, par exemple, ça, ce sont des traits pour composer des mots, en fait, c'est la première colonne. Et ils sont en fait nombreux, mais les plus utilisés, il n'y en a que 9, on appelle 9 traits de base. Souvent, en fait, on utilise ça, vous voyez, il y a un peu la direction de trait. Voilà, pour écrire par exemple un horizontal, on va partir de gauche à droite, voilà, par exemple. Pour vertical, on part de haut vers le bas, par exemple. Oui, ça c'est bon, oui, vous pouvez avancer un peu s'il vous plaît. Et par exemple, ce mot-là, il contient en fait à peu près le 9 traits de base. Et dans ce mot-là, en fait, j'ai essayé de faire moi-même un peu mes flèches, désolé, c'est pas très joli. Alors, par exemple, quand on va écrire ces traits premiers en haut, voilà, et on fait en fait la direction comme ça, voilà.
Mais c'est le pinceau qui impose aussi un petit peu ça.
Oui, ouais. Ça peut être avec un pinceau.
Quand oui, on... mais avec une plume.
Oui, quand on va écrire, en fait, quand on a, si on commence cet atelier, au début, on va faire avec, bien sûr, avec les stylos qu'on écrit comme tout le monde. Et après, je souhaite qu'on fasse la calligraphie. Ouais. Voilà, et après, ça peut être les deux. Et après, s'il vous plaît, vous pouvez avancer encore un peu. Voilà, par exemple, je donnais un exemple pour ces mots-là. Wo, ça peut dire je, ça peut dire moi. Par exemple, on écrit voilà, par l'ordre. Premier, c'est quoi? Deuxième, c'est quoi? Voilà, en total, il y a combien de traits? Voilà. Voilà. Et même pour moi, écrire un mot, en fait, des fois, j'ai besoin d'écrire, par exemple, pour dire la prochaine fois, on fait quoi. Enfin, la plupart du temps, j'écris en français, bien sûr, parce que je vis en France. Mais parfois, j'aimerais bien écrire en chinois. Et c'est un moment où, en fait, vraiment, je pense à rien. Ça me détend aussi. Oui. C'est la même chose. Alors, c'est, par exemple, ce mot-là, voilà, j'ai essayé de vous montrer rapidement voilà, l'ordre de traits. C'est-à-dire, voilà, on commence par exemple, tout à l'heure, on a regardé un par un. Et là, on regardait, par exemple, de gauche à droite, de haut en bas. C'est-à-dire, on écrit d'abord de gauche, après à droite, et de haut en bas, par exemple. Hein. C'est juste pour vous montrer... pour ne pas avoir une idée trop abstraite, en fait. Vous pouvez, s'il vous plaît. Voilà, ça, ce sont des clés. Par exemple, le quatrième, voilà, c'est 1, 2, 3, 4. Celui-là, par exemple, si on... Oui, c'est celui-là, s'il vous plaît, merci. Et on voit cette clé-là, en fait, on sait que, voilà, ce mot-là, c'est pour dire une femme. Ou bien, en fait, une sœur, une maman, enfin, quelque chose. On voit cette clé-là, on sait, ah, ça tient, c'est quelqu'un de féminin, par exemple. S'il vous plaît. Voilà. Et après, en fait, dans cet atelier, je vous parlais aussi un peu de structure. Pour dire, voilà, il y a des mots simples, il y a des mots complexes, c'est-à-dire qui contiennent gauche, droite, voilà. C'est très abstrait, hein. Voilà, c'est juste pour vous montrer comme ça, mais si ça vous intéresse, vous venez, on va découvrir ensemble. Et si vous avez des questions, hein. Si vous avez des questions, ça me fait plaisir. Alors, en fait, je vais vous distribuer ces genres de feuilles d'écriture. Pour vous montrer comment on fait chaque trait, voilà, comment on fait chaque clé. C'est comme les enfants chinois. À l'école, on utilise vraiment la même feuille d'écriture, s'il vous plaît. Merci. Et après, je souhaite surtout, en fait, vous faites découvrir la calligraphie chinoise. Voilà, bien sûr, je vais fournir tous les matériels, voilà, tel que soit le pinceau, l'encre, et voilà. Et ça, c'est juste pour vous montrer la calligraphie, voilà, que vous avez sûrement déjà vue dans quelque part, voilà. Et s'il vous plaît, vous pouvez encore avancer un peu, voilà. Ça, c'est la calligraphie chinoise, même moi, sans les, explications. À côté, en fait, je ne peux pas connaître du tout parce que c'est vraiment... on appelle l'écriture cursive, c'est ça, hein? Oui, c'est vous qui me confirmez. Voilà, j'espère, si ça vous intéresse, vous pouvez venir voilà, pour découvrir. Et puis, surtout, en fait, on pourrait discuter ensemble. Pour, par exemple, avec l'ancien groupe, ce qu'on fait, c'est, par exemple, quand il s'agit de la fête chinoise, des fêtes chinoises, on essaye de voir ensemble et puis expliquer et regarder un peu les vidéos. Et, par exemple, quand c'est le nouvel an chinois, on est allé manger au restaurant. Après, en fait, on a fait un thé, voilà, pour vous présenter les thés, etc. Voilà, je vous souhaite un bon après-midi et puis peut-être à bientôt. Vous êtes bienvenus.
Merci.
Merci. Ah, est-ce que vous avez des questions, messieurs? Surtout, j'ai entendu que... Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Bon, si jamais vous avez des questions, si jamais vous venez à l'atelier, n'hésitez pas. Merci.
Bien, eh bien, merci, Madame merci. Lou. Hein, voilà. Je vais vous rendre votre clé. Voilà.
Merci.
Voilà. Alors, dictée d'autrefois. Ah, italien. J'ai zappé. Excusez-moi.
Bien.
Madame Godichon.
Hélène Godichon, oui, je vois parmi le public un certain nombre de personnes qui suivent mes cours, qui trouvent que l'italien est très difficile, mais quand j'assiste à la présentation de chinois, je me dis, non, ne vous plaignez pas. C'est vrai qu'on se figure que l'italien, c'est un O, un A au bout du mot, et le tour est joué. En fait, certaines personnes peuvent vous dire que c'est loin d'être cela, parce que la grammaire est difficile, et les contresens sont faciles, parce que des mots très proches de la langue française ont un tout autre sens. Bien, nous avons créé le cours d'italien il y a à peu près une quinzaine d'années. Il y a 2 ans, il n'y a pas eu de cours. L'an dernier, les cours ont repris plus timidement, je dirais. Nous n'avons pas pu faire le cours de avancé qui avait lieu le mardi. Cependant, il y a eu 2 cours qui sont maintenus, si le public est suffisant, bien sûr. Le cours faux débutant, qui ressemble à tous les cours faux débutants présentés préalablement par mes collègues, donc avec une petite connaissance de la langue, mais pas complètement débutant, et le cours intermédiaire, qui permet d'avancer dans la conversation, dans l'étude de textes plus approfondis. Bien sûr, comme Michael, je me base sur des sujets concrets de la vie actuelle. On travaille beaucoup la grammaire parce que malheureusement, elle est largement plus difficile encore que la grammaire française. Donc, on est obligé de faire de beaux efforts. Et puis, quoi vous dire que j'attends un public...
Qu'elle adore l'italien, voilà,
bah oui,
c'est ça, elle n'a pas osé le dire, mais...
Je suis italienne d'origine, voilà. Et je pense transmettre cet amour de l'Italie. De toute façon, les personnes qui viennent sont amoureuses de l'Italie et de l'italien. Et ça, ça aide aussi beaucoup à l'apprentissage de la langue. Je vous remercie.
Merci Hélène. La dictée. Liliane Douté. Si, il faut causer dans le micro.
Donc, je prends un texte d'auteur. J'aime bien le 19e parce que les phrases sont suffisamment longues, les textes, les verbes bien conjugués, tout ça. Je lis le texte, je parle de l'auteur, des difficultés, on fait la dictée, on relit, on corrige, on parle. Et puis après, j'envoie le texte corrigé avec tout ce qui est à côté de la dictée. Alors, ça s'appelle le tourne-autour chez nous. C'est la biographie de l'auteur, c'est la règle de grammaire, c'est le rappel de mots de vocabulaire, c'est un petit peu de tout pour agrémenter la chose. Et tout ça se trouve sur le site internet, dans l'onglet « Groupes et ateliers » qu'on vous a montré tout à l'heure. Voilà, à la page donc, dictée d'autrefois.
C'est ça qui est très intéressant. Elle fait un très gros travail, bien sûr, de préparation, mais surtout après de correction. Et le tourne-autour, justement, il est documenté.
Le tourne-autour, c'est aussi...
Et on peut s'y reporter, puisque toutes les dictées sont postées sur le site. Voilà.
Et donc, c'est un lundi sur deux, et nous commencerons le 3 octobre à 10h. Je vous attends.
Merci, Liliane. Alors, groupe lecture. Madame Christiane Coffin. Oui, elle lit son texte. Mais...
Voilà, le groupe lecture se réunit tous les 3e jeudis du mois, le matin, de 10h à 12h, rue Saint-Georges, sauf pendant les vacances. Notre première séance du mois d'octobre sera consacrée à nos lectures de vacances. En janvier 2023, nous lirons les prix littéraires de 2022. Le mois de mars sera consacré à la poésie. Nous lirons les auteurs suivants pendant les autres mois. En novembre, Éric Orsenna. En décembre, Tanguy Biel. En février 2023, Léonore de Recondo. En avril, Pete Fromm, qui est un Américain. Notre dernière séance, donc la séance du mois de mai, sera consacré au roman policier. Ce sont les participants du groupe qui choisissent les auteurs. Hein. J'ai quelques programmes ici, si vous êtes intéressés. Comme ces rencontres ont lieu le matin, nous avons la possibilité d'aller au restaurant et déjeuner ensemble, ce qui est toujours un moment très, très agréable. Mais ce n'est pas obligatoire. Je voulais aussi vous dire que c'est la dernière année que je serai responsable.
C'est l'occasion de vous remercier, Madame Coffin, de toute l'énergie que vous y avez passée depuis presque 30 ans. Plus.
En 23, ça fera 39 ans.
39 ans. Merci beaucoup.
Je l'ai démarré en
84, voilà.
Le groupe littérature a démarré en
83.
Et le groupe lecture l'année d'après. Voilà.
Merci beaucoup. Ah, Françoise n'est pas là. Liliane, Françoise n'est pas là? Oui, oui, alors, voilà, donc c'est Françoise Piau qui anime, oui, le groupe littérature, vous parlez dans le micro. Voilà.
Donc, c'est pas tout à fait la même chose qu'en lecture. En lecture, on choisit un homme et puis on parle de son œuvre, tandis qu'en littérature, on choisit un ouvrage et on parle de cet ouvrage. Il y a un seul ouvrage par séance, alors qu'en littérature, il y en a plusieurs. C'est plus contemporain pour la littérature et c'est plus classique, on va dire, c'est plus contemporain pour la lecture et c'est plus classique, on va dire, pour la littérature. Voilà, c'est contemporain.
C'est une filiale, c'est une succursale.
Alors, c'est plus tout à fait pareil, puisqu'on fait des auteurs étrangers vivant aujourd'hui, maintenant, en littérature. C'est fait aussi pour découvrir la littérature étrangère. Par exemple, le 3 octobre, Monique Garima va nous parler d'Assia Djebar. Et puis, elle nous parlera aussi, plus tard, de Yasunari Kawabata. Donc, on découvre des auteurs étrangers. À part ça, nous aurons Alberto Moravia, qui est aussi étranger, mais un peu plus familier. Je parlerai de Raymond Radiguet. Madame Morin-Combe nous parlera de fiction, de Borges. Madame Coffin nous présentera Victor Hugo, poète. Et puis, Françoise Piau terminera l'année avec Ionesco, Le roi se meurt. Vous voyez, c'est... voilà.
Éclectique. Éclectique.
Voilà. Et c'est éclectique, oui. Et c'est tous les premiers lundis du mois, au site Saint-Georges, bien entendu, à 2h15.
Merci. Groupe Patrimoine écrit de Bourgogne. Alors, la responsable n'est pas là, Françoise Raslovlev. Alors, pour le moment, il est un petit peu en stand-by parce que on a un peu mis la pédale douce pendant la pandémie du Covid sur les activités de... Alors, ce groupe, il a été créé assez tôt dans l'histoire de l'UTB, l'idée étant de découvrir ou de redécouvrir des auteurs bourguignons. On a fait des choses très variées. Et même des monographies historiques, comme Lazare Carnot, par exemple. Donc, en ce moment, on cherche un petit peu une thématique. Donc, une fois par mois, on cherche surtout un personnage qui a une œuvre écrite, souvent dans le passé, soit au XVIe, soit au XIXe siècle. Un des derniers qu'on ait fait, c'est... le préfet de la Seine, là. Rambuteau. Rambuteau, tout simplement parce que son point d'attache était dans Saône-et-Loire, donc du côté de Charolles. Hein. Et on a eu accès d'ailleurs à des documents familiaux qui nous ont permis d'écrire une monographie sur Rambuteau. Rambuteau, c'est le prédécesseur de Haussmann à Paris. Donc c'est lui qui a amorcé, si vous voulez, la rénovation urbaine de Paris, et Haussmann qui l'a mis en œuvre sous le Second Empire. Puisque Rambuteau, lui, il n'était pas très napoléonien, c'est un euphémisme, et donc il a disparu du circuit, si je puis dire, en 1852, au moment du coup d'État, et ensuite, donc, c'est Haussmann qui a pris la suite. Mais le travail avait été amorcé. Donc, pour le moment, c'est en réflexion. Il y a un groupe où il y a 5 ou 6 personnes de chercher, si vous voulez, un thème pour créer. Et en général, ça se termine par la publication d'un ouvrage. Et c'est comme ça qu'on a constitué toute notre bibliothèque d'ouvrages que l'on vend maintenant, que l'on met à la vente, et avec quelques auteurs extérieurs qui nous ont donné leur propre production. Groupe économie et géopolitique. Bon, le titre veut bien dire tout ce qu'il veut dire, donc l'idée c'est de partir, c'est un petit peu la même philosophie que le groupe littérature ou lecture, c'est-à-dire on prend des articles ou des ouvrages et des thèmes. Et donc tous les mois, eh bien, il y a un des membres du groupe qui développe un résumé d'un ouvrage ou une synthèse d'articles divers, mais sur une thématique donnée. Et donc là, on a réussi l'année dernière, depuis 2 ou 3 années, là, arriver à faire une liste de thèmes qui permettent de laisser le temps à ceux qui ont accepté de le faire de préparer leurs exposés. Ça a tellement bien fonctionné que l'année dernière, c'est moi qui anime ce groupe-là, et l'année dernière, il y a 2 exposés que j'ai trouvés vraiment excellents, faits par des adhérents. Je les ai trouvés tellement excellents que je leur ai demandé de les refaire, mais en cinémascope et en couleur, comme des conférences des lundis de l'UTB. Donc, et c'est une conférence sur la géopolitique de l'agriculture. Et le sujet était choisi avant la guerre en Ukraine. Hein. Donc, on avait eu la préscience de la difficulté. Hein. Voilà, c'est un exposé qui a été fait l'année dernière. Hein. Donc, on aura un exposé là-dessus en conférence plénière. Et le deuxième sujet, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les routes de la soie, entre guillemets, c'est-à-dire tout le programme chinois de faire des infrastructures qui se branchent sur l'ensemble du monde pour faire un développement économique, sinon culturel. Voilà. Et donc, on va avoir également une conférence sur ce sujet. Voilà les thèmes qu'on a prévu de traiter dans le groupe cette année. Donc là, vous pouvez venir, mais la liste des travailleurs est complète. Donc si vous voulez simplement écouter, vous êtes quand même les bienvenus dans la limite des places dans la salle. Donc ça marche pas mal, ça. Groupe éthique et société, Monique. Un groupe éthique et société, historiquement, a existé avant économie et géopolitique. Donc, mais c'est un peu la même philosophie, si vous voulez. Alors, vas-y, tu parles dans le micro, s'il te plaît.
Bonjour, mesdames. Bonjour, messieurs. Alors, je vais me répéter pour ceux qui sont là depuis longtemps. Il n'y a que les nouveaux qui s'ennuieront moins parce qu'ils ne sauront pas encore de quoi il s'agit. Alors, il s'agit d'un groupe, ce groupe éthique et société, d'un groupe de réflexion et de débat sur des problèmes de société au niveau de l'éthique. Alors, le thème commun est choisi démocratiquement, mais chacun reste libre de choisir le livre qui lui convient, ou l'article, d'ailleurs, qui lui convient. Mais le thème commun, alors, cette année, est la quête du sens. Mais il y avait beaucoup plus de personnes qui ont décidé de faire ce qu'ils choisissaient, ce qu'ils voulaient, que de suivre le thème commun. Donc il y a une certaine liberté. La majeure partie donc vont choisir le thème qui leur conviendra. Il suffit qu'ils soient enthousiasmés par le sujet et puis que ça leur convienne pleinement, et qu'ils en désignent également le côté éthique. Ça a été suggéré par une des personnes du groupe, qui serait bien qu'à chaque exposé, ce qu'il y a d'éthique dans ce qui va être entendu soit dit au départ. Les rencontres ont lieu une fois par mois. Le calendrier est décidé en commun en début de saison. Alors, on demande, il y a quand même justement une certaine éthique aussi dans le groupe, le respect des autres qui se manifeste par l'étude, l'écoute silencieuse de la personne qui fait l'exposé. Le débat est régulé par un modérateur qui se décide lui-même chaque fois différemment, ce n'est jamais la même personne. Au départ, d'une séance à l'autre, on demande qui voudra faire le modérateur, c'est-à-dire la personne qui va réguler un peu le flux de parole de celui qui s'exprime et de ceux qui parleraient pendant qu'il s'exprime. De cette façon, on évite de se retrouver dans la tour de Babel où on ne s'entendra plus. Mais en principe, ça se passe bien, toujours. Alors, malgré cette règle du jeu, parce qu'on est tout de même 19, donc on ne peut pas parler tous ensemble, ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait une petite régulation. En principe, ça se passe bien, ça n'empêche pas que ce soit vivant et puis que ce soit aussi assez passionné. Alors, la question pratique, qui a son importance, chacun rédige son exposé et me l'envoie une dizaine de jours avant notre réunion. Et moi, je la transmets à tout le groupe, ce qui permet aux personnes de préparer leurs questions et de faire un débat qui sera le plus riche possible. Dans l'ensemble, et jusqu'à présent, ça fait 19 ans que ça dure, enfin, 14 ans que ça dure, l'ambiance sympathique, curieuse de découverte et assez chaleureuse. Alors donc, la prochaine rencontre est le lundi 3 octobre de 17h à 18h45 rue Saint-Georges dans les bureaux de l'UTB. Alors venez nous rejoindre, on sera très heureux de retrouver d'autres personnes avec nous et d'augmenter la réflexion et le groupe, puisque c'est un groupe de connaissances et de recherche culturelle qui est absolument accessible à tout le monde. Il suffit d'être curieux, tout le monde pense, tout le monde a la faculté de réfléchir, donc c'est ouvert à tout le monde, ce n'est pas du tout... Il n'y a pas du tout de ségrégation particulière, absolument pas. Au contraire, ce qui est intéressant, c'est les avis différents et les réflexions différentes. Alors venez avec nous, on sera ravis.
Merci Monique. Si vous voulez poser des questions, c'est possible aussi. Hein. D'une façon générale, d'ailleurs, s'il y a un effet de curiosité pour tel ou tel atelier... en particulier les ateliers payants. Donc si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe, vous pouvez venir à la première séance gratuitement, bien sûr, pour sentir un petit peu l'atmosphère et la façon dont ça se passe. Il n'y a aucun problème, on vous accueillera bien volontiers. On est là pour se faire plaisir. On n'est pas, encore une fois, à l'école. Il n'y a pas de notes et d'examen de fin d'année. Voilà. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, voilà quelques exemples de publications que nous avons faites, qui sont pour l'essentiel le produit des travaux du groupe Patrimoine écrit de Bourgogne. Et donc, ça, on s'en est pas vraiment rendu compte au départ, mais les années ont passé, maintenant, je crois qu'on a 26 bouquins en catalogue. 30 bon, les années passent et puis il y en a un ou deux par année qui vient se... Alors, ça a l'air de rien, si vous voulez, entre quelque chose qui est rédigé soit à la main, soit même en traitement de texte, et un livre qui est bien fait et qui est un livre vendable dans une librairie, il y a aussi du boulot. Donc maintenant, on a toute la chaîne éditoriale, c'est-à-dire la mise en place, ce qu'on appelle l'édition au sens mise en forme du texte et création de la couverture, on a des bénévoles qui savent faire ça. Donc on se répartit un petit peu le travail et on a des fournisseurs sur Chalon qui nous fabriquent ces livres. À Bibliothèque de Prêt, alors les deux duettistes là vont non, mais si il faut les deux si elles se montrent. Oui. Allez Michel, debout. Oui. Donc il y a un duo d'enfer, Jeanne-Marie Michel et Michel Beaumont, qui s'occupent de cette bibliothèque de Prêt. Alors, non seulement elle s'en occupe, mais elle m'a fait une petite présentation que je vais vous montrer et qu'elle va commenter. Voilà.
Merci. Voilà. En fait, je vais vous montrer les nouvelles acquisitions de cette année. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a fait une journée vivant de nom. Donc, et on a élaboré un site internet sur Dominique Vivant de Nom. Donc, pour ce faire, il y a deux ouvrages qui ont été acquis par le groupe qui a préparé le site et donc qui sont arrivés ensuite à la bibliothèque de Prêt. Donc, le catalogue de l'exposition qui a été faite au musée du Louvre en 1999-2000, qui s'appelle « L'œil de Napoléon, vivant de nom ».
C'est un pavé comme ça, et énorme, qui est une mine de renseignements. Donc c'est un ouvrage de référence, c'est pas un ouvrage à lire, mais il est disponible à la bibliothèque.
Et je n'en ai pas fait le résumé. C'est un pavé. Et puis, on a donc aussi la biographie de Vivant de Nom par Marchionni, qui est apparemment une référence dans le domaine. Ensuite, nous avons eu, toujours dans le cadre de la journée Vivant de Nom, une conférencière qui s'appelle Béatrice Coularé, qui est la conservatrice de la monnaie des médailles. En fait, la monnaie des médailles, c'est l'atelier à la Monnaie de Paris qui fabriquait les pièces. Maintenant, c'est fabriqué à Pessac, à côté de Bordeaux, et qui fabrique beaucoup de médailles. Et donc, elle est la conservatrice de ce département, si vous voulez, de la Monnaie de Paris. Et elle a fait une conférence très, très intéressante sur les médailles. Et donc, à cette occasion, elle nous a donné des livres. On a donc un livre qui est très bien fait, au cœur de la Monnaie de Paris, donc qui décrit, si vous voulez, le fonctionnement de la Monnaie de Paris. Le deuxième que j'ai mis là, c'est sur les pas de Voilà, sur les pas de Napoléon Ier à la Monnaie de Paris. Même chose. Hein, c'était donc une exposition qui a eu lieu à Monnaie de Paris. Et qui était sur les pas de Napoléon? Ben, Denon. Hein. Denon, donc créateur du musée Napoléon qui est devenu Louvre, et en tant que graveur aussi la personne tout indiquée pour diriger l'atelier des monnaies. Donc, c'est très illustré. Ceux qui s'intéressent à la numismatique et aux médailles vont se régaler parce qu'il y a de très belles images. Et il y a eu aussi d'autres conférences, d'autres expositions, donc une sur Kiki Smith. Ah, non, je pense qu'on a sauté une diapo.
Et la suivante.
Voilà. Encore donc des expositions qui ont eu lieu à la Monnaie de Paris. Voilà, donc une sur le porte-monnaie, une autre sur la Grayson-Perry, qu'évidemment je ne connais pas, enfin bref. Voilà, donc on a ces livres-là qui sont arrivés à la bibliothèque.
En fait, on a la chance, quand on a des personnalités comme ça qui viennent de Paris, qui viennent nous faire des conférences, c'était le cas de la Monnaie de Paris, elle s'est amenée avec un sac énorme comme ça, elle nous a fait des cadeaux. Et donc la bibliothèque s'augmente, si vous voulez, sans qu'on fasse rien, parce que les conférenciers nous font des cadeaux de l'institution dans laquelle ils travaillent et qui produit des ouvrages, si vous voulez. Hein?
C'est ça. Voilà. Donc on a eu aussi donc le professeur Patrick Bersch qui nous a donné des conférences. Une première conférence sur le Covid, qui était une visioconférence, et une autre sur la résistance aux antibiotiques. Donc, et là, donc, la bibliothèque s'est enrichie donc, de ces publications. Donc, une sur les, comme vous lisez là, pandémie, les sortilèges du cerveau, et le savoir vagabond, qui est une histoire de l'enseignement de la médecine. Donc, le professeur Patrick Bersch est très intéressant. Je crois qu'il revient cette année, je ne suis pas absolument...
Non, pas cette année.
Enfin bref, il était directeur de l'Institut Pasteur à Lille. C'est une sommité donc en microbiologie. Alors, par contre, lui va revenir cette année, François Kersaudy, qui passe à la télévision, et donc est un grand spécialiste de Churchill et de Gaulle. Lui va revenir cette année, justement, son thème sera De Gaulle et Pétain. Donc, lui, il nous a parlé de Lord Mountbatten, de Hitler, de Kernstein, etc. Donc, je pense qu'il a dû donner aussi les ouvrages qu'il a publiés. Et enfin, Madame Razlovlev nous a fait une conférence sur Daniel-Henri Canveller, et donc elle a laissé les livres qui lui ont servi à faire sa conférence. Voilà. Donc, trois ouvrages que vous voyez là. C'est un marchand d'art qui donc a découvert et commercialisé Picasso, Léger, etc. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, attendez voir. La bibliothèque, donc, c'est plus de 700 titres, des documents, pas très peu de romans. Donc, dont le catalogue est sur le site de l'UTB, à l'onglet bibliothèque, et c'est ouvert le troisième vendredi du mois de 10h à 12h. Et, dernière slide, on a une nouveauté, c'est qu'on va faire une boîte à livres. Hein, donc, beaucoup de gens achètent beaucoup de romans. Une fois qu'ils sont lus, ils restent dans un fond de tiroir ou sur une étagère. Donc, si vous voulez donner vos livres et échanger des livres, hein, va-et-vient, c'est le principe d'une boîte à livres, il y en a de plus en plus. Donc, on aura une caisse dans une des salles et on peut déposer des livres et en prendre, en laisser, etc. Voilà, on attend votre venue.
Oui, alors c'est ça qui est très important. Jusqu'à présent, il faut bien reconnaître, ça n'a pas très bien marché parce que les gens viennent peu. C'est tout le problème des bibliothèques. Et donc, une fois par mois, donc, ces dames vous accueillent pour voir. Mais il faut faire une présélection. Pour bien travailler avec une bibliothèque, il faut chercher un petit peu dans le catalogue. Et maintenant, on a un catalogue pour dire, et vous avez vu, il n'y a pas tellement de romans, c'est ce qu'on trouve pour l'essentiel dans les bibliothèques municipales, alors quand on a vraiment un ciblé, quelque chose que tu appelles les documents, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas roman, pour faire court. Hein. Et donc, on a quand même quelques perles là-dedans, il faut que vous le sachiez, donc c'est mis sur le site, et ça peut vous intéresser, voilà, ponctuellement. Voilà. Non, c'est pas ça. Bon, on reprend la présentation. Là, on arrive à la fin de l'exposé. Donc la marche, la marcheuse, voilà. Voilà. Alors, Jacqueline, parle dans le micro.
Oui, je représente Michel Clerc, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, et Christine Peteuil, qui avait aussi un engagement par ailleurs. Donc, en fait, les marches, c'est une fois tous les 15 jours. Est-ce que Daniel Duty est là? Oui. Vous pouvez venir? Hey, je m'adjoins quelqu'un parce que sinon je ne saurais pas. Donc bienvenue, parce que je crois que vous êtes nouvelle et oui. Que vous, Michel vous a demandé de participer activement à la marche, c'est ça, à l'organisation, à le repérage, aux, je sais pas, aux propositions.
Non,
vous ne connaissez pas Michel Clerc.
Vous voyez, c'est en temps réel, là. Voilà. C'est du live.
Vous ne connaissez pas Michel Clerc.
Si, je connais très bien.
Oui. Et il ne vous a pas dit que vous alliez travailler et faire des repérages et...
Ah ben, vous faites toujours des repérages ensemble, voilà. Une fois qu'on a fait les repérages et que la randonnée est décidée, il nous envoie le déroulé de la journée ou de l'après-midi, c'est plutôt l'après-midi. Quelquefois, quand la marche est plus longue, ben, on part très tôt le matin. Voilà,
C'est souvent l'après-midi quand même. C'est souvent l'après-midi. Hein. La prochaine, c'est la chapelle de Bragny.
Vous êtes au courant?
Voilà.
Voilà. Oui. Qui fait 9 km et c'est l'après-midi, donc on aura un point de rendez-vous. Et puis, bon, pour ceux qui veulent faire plus, il y a 7 km de plus prévu, mais c'est les lièvres et les tortues. Enfin, les tortues et les lièvres. Donc chacun marche à son rythme. Il est recommandé toutefois, quand il pleut, d'avoir des bâtons et des bonnes chaussures. Hein. Attention aux entorses, mais c'est pratiquement jamais arrivé, ça arrive qu'une fois. Mais enfin, je préfère le dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Le groupe est assez petit, donc plus il y aura de monde, mieux ce sera. Parce que là, on est 8, à peu près 8-10, et ce serait bien qu'il y ait plein de marcheurs. Voilà. Oui.
Est-ce que vous avez... Merci, Daniel. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la marche?
Oui.
Du 8 octobre, c'est ça? D'accord. Alors,
elle sera dans le bulletin.
Voilà, dans le bulletin, et surtout... N'hésitez pas à regarder le site internet où vous avez vraiment un site qui est super bien fait et c'est UTB Chalon. Et en fait, quand vous tapez UTB Chalon sur Google ou sur je ne sais pas quoi, ça arrive en premier. Donc après, il suffit de cliquer et d'avoir toutes les informations sur qui fait quoi et même pour les autres groupes d'ailleurs. Hein. C'est vraiment une mine d'informations et au moins vous êtes sûr de ne pas louper quelque chose. Je vous remercie beaucoup et puis mettez vos baskets.
Bien, on termine par les voyages culturels. Donc, nous faisons, depuis que l'UTB existe, des voyages et des sorties entre une journée et une semaine, en général. Et donc, c'est toujours un petit peu difficile parce que le principe des voyages, c'est qu'ils aient un lien... de cousinage avec des thèmes qui ont été développés dans les conférences. Donc on n'est pas une agence de voyage, d'ailleurs on travaille avec des voyagistes, on n'est pas équipé et on n'a pas le droit d'ailleurs de faire des organisations de voyage à 100%. Donc on a une petite liste de projets pour l'année prochaine, enfin la saison qui vient là. Je vous la laisse lire sur le tableau. Je fais un petit rappel, c'est la sortie au musée des Beaux-Arts. On l'a enlevé là, tiens, c'est bizarre. De Dijon. Non, il est pas là. Donc il y a une sortie qui est prévue là au mois de c'est octobre. Hein? À Dijon, donc il nous manque une ou deux personnes pour que le voyage se fasse. Alors c'est une visite guidée du musée des Beaux-Arts de Dijon. Vous savez que la deuxième section, il y avait une rénovation qui était faite sur la partie médiévale depuis 4 ou 5 ans, qui est magnifique, avec le tombeau des ducs, et la partie ancienne, le reste du musée a été relooké l'année dernière, ou il y a 2 ans, et oui, c'était juste avant le Covid, là, et donc l'intérêt des visites de musée, c'est surtout d'avoir des visites guidées, c'est-à-dire avec des guides du musée qui vous expliquent, qui vont vous montrer dans les... et qui vous donnent tout l'environnement autour des œuvres qui sont présentées. Parce qu'on peut aller à Dijon voir le musée des Beaux-Arts, c'est à la portée de tout un chacun. Alors on dit, mais qu'est-ce que ça apporte de plus? C'est la visite guidée. Hein. J'insiste beaucoup là-dessus. Donc il reste une ou deux places sur ce... Donc c'est sur le site et c'est sur le bulletin du mois de septembre. Si ça vous intéresse ou si des amis qui sont à l'UTB sont intéressés, faites-leur savoir. On va faire une piqûre de rappel par mail d'ailleurs. Voilà. Donc voilà les sujets. Alors le grand voyage qu'on a plus ou moins prévu, voilà, c'est celui-là, c'est la Toscane. On vient juste d'avoir les derniers éléments qui sont arrivés hier. Donc ce sera du 27 mars au 1er avril de l'année prochaine, et donc c'est pour l'essentiel Florence et Sienne. Ça fait très longtemps qu'on est allé en Toscane, hein, et donc on tente l'aventure avec une association qui s'appelle Athéna, qui est une association qui ressemble un petit peu à Arzévi, mais sur la région lyonnaise. Ça a été fondé il y a une cinquantaine d'années par des enseignants. Et c'est très culturel, c'est de très bonne qualité. Et donc, on est sollicité, mais les premiers contacts avaient lieu juste avant le Covid, et puis, bon, c'est tombé, évidemment, à l'eau. Et là, on repart pour un tour, là, et on tente l'aventure. Enfin, tenter l'aventure, c'est pas... Le problème, maintenant, en particulier le tourisme en Italie, c'est de s'organiser pour éviter la foule. Et tous ces sites sont... extrêmement chargé. Donc on prend déjà une date qui est avant vraiment le début de la saison, hein, donc fin mars, début avril. Donc on évite un petit peu déjà le tourisme de masse, et surtout les visites des musées et des lieux importants sont programmés dans la journée de telle façon, et le restaurant de la même façon sont programmés de telle façon qu'on évite les pics de fréquentation. Et ça, c'est tout un art du voyagiste qui nous permet de bien organiser ça, si vous voulez. Aujourd'hui, le tourisme de masse tue un petit peu le tourisme, et donc il faut bien savoir s'y prendre pour avoir des choses intéressantes. Donc, pour faire des voyages, on vient au bureau, on s'inscrit, tout est décrit dans le bulletin et sur le site. Et tous les documents qui vont avec sont présentés et signés au secrétariat. On fait également des conférences débats, au printemps, c'est-à-dire à la fin de la saison, c'est-à-dire mai-juin, parce que notre programme de conférences est tellement dense qu'on a beaucoup de mal à intégrer ça dans le calendrier. Et puis on a un peu la tête ailleurs, donc là ça permet de préparer aussi les questions débat. Donc on vous dira en temps et en heure les thèmes qui sont proposés. Si vous avez des sujets de conférences débat, on est preneur, bien sûr. Alors je rappelle que la règle, c'est de s'inscrire avec un bout de papier qui s'appelle une fiche d'inscription. Donc on en a quelques exemplaires ici. Pourquoi fait-on ça? Et c'est surtout vrai, paradoxalement, pour les ateliers gratuits. C'est simplement pour que le secrétariat sache exactement les noms des personnes qui sont inscrites aux ateliers. Alors effectivement, comme d'une année sur l'autre, les gens ont l'habitude de venir à tel ou tel atelier, ils négligent un petit peu cette formalité administrative qui consiste à remplir un bout de papier qui est d'une complexité épouvantable, comme vous pouvez le voir, hein. Il faut se mettre à la place de notre secrétaire Muriel, qui elle ne va ni aux conférences ni aux ateliers, mais qui aime bien savoir tout ce qui se passe, ne serait-ce que pour gérer tout ça, ne serait-ce pour gérer en particulier les plannings, les agendas, les calendriers. Voilà. Donc il faut s'inscrire quand on va dans des ateliers. Et on a déjà beaucoup de groupes. On a un exemple qui vous a été montré avec Catherine Weissmann. Ça, c'est une proposition. C'est pas nous qui l'avons inventé, c'est elle qui nous l'a proposé. On a dit, ben non, c'est très bien. On accepte. Hein, et puis, le succès a été au rendez-vous. Ça fait pas de doute. Voilà. Donc, je redis en conclusion, et puis on a pratiquement tenu l'horaire, c'est extraordinaire. Il y a un intérêt intrinsèque de chaque groupe, c'est-à-dire les gens qui participent, c'est parce que ça les intéresse, bien évidemment, mais au-delà de ça, c'est de faire connaissance. De temps en temps, quand je perds un peu les pédales, je dis ah ben, l'UTB, c'est un club de rencontres. Alors évidemment, c'est une connotation un petit peu délicate. Donc, c'est un club, on va dire, où ça permet de faire connaissance. Quand vous voyez la conversation anglaise, on a passé... moi, j'ai plus le temps d'y aller. Hein, c'est moi qui avais mis ça en place tout à fait au début, quand je suis arrivé. On m'invite quand même au gueuleton de fin d'année. C'est quand même sympathique, quoi. Mais c'est classique dans les associations de faire des petits goûters à la fin des activités pour se retrouver. Et c'est pour ça que j'ai mis quelques photos. D'ailleurs, je dispute toujours mes responsables d'atelier en disant « des photos ». Parce qu'il nous faut un petit peu une bibliothèque d'images pour nourrir un peu nos supports. Et on n'est pas... les gens aiment bien boire un coup, mais ils ne pensent pas faire la photo. Alors aujourd'hui, on a tous des téléphones, c'est quand même pas difficile de prendre quelques photos quand on fait des petites sorties sympathiques. Voilà. Alors, je vous remercie de votre attention. Si vous avez d'autres questions à poser sur des sujets que je n'ai pas évoqués, eh bien, posez-les, c'est le moment. Voilà. Merci beaucoup.